Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de l'été. Vous en connaissez le principe, découvrir un lieu qui leur est cher en compagnie d'une ou d'un auteur. Ce dimanche, votre guide sera Evelyne Bloch-Dano. Elle publie « Mes maisons d'écrivains », un livre érudit et plaisant qui nous emmène à la découverte donc des demeures où les écrivains les plus célèbres ont vécu et travaillé. Evelyne Bloch-Dano en a visité une centaine. La plupart sont ouvertes au public et sont donc de belles idées d'excursion en cette période de vacances, comme chez Montaigne par exemple, en Dordogne, chez Colette en Bourgogne, George Sand à Nohant, Victor Hugo à Guernesey ou encore chez Aragon et Elsa Triolet au moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult en Yvelines près de Paris. C'est là qu'Evelyne Bloch-Dano nous a donné rendez-vous. La visite commence.
Et alors on entre par la cuisine et c'est une pièce importante, la cuisine dans une maison, que ce soit une maison d'écrivain ou une maison en général. Là on sent vraiment un endroit, je trouve, habité. C'était une ancienne étable, je crois, à l'origine.
Et vous en parlez dans le livre avec un vrai frigidaire, c'est-à-dire un réfrigérateur de la marque Frigidaire. On a l'impression qu'on va l'ouvrir et qu'il est plein, qu'il est garni encore.
Et exactement. Et c'est quand même le top de la modernité au début des années 50 en France, surtout dans une maison de campagne. Donc ça montre qu'il y avait aussi un désir de confort chez les... peut-être un peu d'embourgeoisement chez les Aragon Triolet.
Alors là, on pénètre peut-être dans le saint des saints, dans le bureau de Louis Aragon. Allez-y, je vous suis.
Et le bureau d'un écrivain, même quand on est écrivain soi-même, c'est ça qui est finalement assez étonnant, a toujours quelque chose d'émouvant, d'intrigant, d'un peu mystérieux. On se demande, écrit-il face à la fenêtre ou le dos à la lumière, comme Balzac, par exemple. Bon, alors dans le cas d'Aragon, cette pièce est au rez-de-chaussée. Il y a des sortes de...
espèces de tomettes.
Tomettes, oui. Une très grande cheminée. Oui. Le fauteuil que je n'ai pas osé, je ne me permettrai pas d'essayer à mon tour, mais qui me paraît très confortable.
Je crois qu'on n'a pas le droit. Hein.
Non. C'est assez masculin comme ensemble, malgré tout. Enfin, je mets des guillemets.
Et des livres.
Et
toujours,
des livres
beaucoup
partout.
De livres. S'il fallait ne retenir que choisir un seul objet ici qui, pour vous, dit beaucoup d'Aragon ou qui, tout simplement, vous touche.
C'est une boîte à musique qui représente le Spoutnik.
Premier objet envoyé dans l'espace par l'homme, rappelons-le, par les Soviétiques à l'époque.
Par les Soviétiques. Ouais. Donc évidemment, ça nous ramène aussi à toute l'histoire d'Aragon et du communisme.
Et elle fonctionne toujours, cette boîte à musique ?
Cette musique, je crois qu'elle ne fonctionne plus. C'est dommage parce qu'on aurait pu vous faire entendre l'international. Et puis, j'ajouterais derrière le bureau ce très, très beau, très belle photographie d'Elsa Triolet.
Elle est magnifique.
Elle est
là-dessus,
très, très belle, avec ses grands yeux bleus.
Les
fameux yeux d'Elsa, exactement. Et aussi... le poème d'Éluard Liberté, par Fernand Léger, qui ramène aussi à une dimension très importante d'Aragon, qu'il faut aussi rappeler, qui est le rôle d'Aragon pendant la Résistance, parce qu'il a pris des risques importants avec Elsa Triolet. Ils vont être obligés de se cacher, ils habitent Nice à un moment, puis ensuite ils vont se cacher dans la Drôme. Il y a toute cette poésie qui est en même temps une poésie de la Résistance et qui est un engagement, finalement, cet engagement de l'écrivain, là, du poète. C'est significatif que ce soit aussi dans le bureau, parce que ça fait partie, au fond, on a un petit peu toutes les dimensions de l'écriture d'Aragon.
Evelyne Bloch-Dano, alors on quitte le bureau d'Aragon, on va traverser rapidement le salon salle à manger avant de gagner l'étage. Et avec cette particularité, c'est que nous sommes dans un moulin, et là, ici, dans cette salle à manger, nous voyons la roue du moulin, là, derrière une lucarne, et on entend derrière nous le bruit de l'eau, cette chute d'eau qui tombait perpétuellement.
Ah oui, c'est vraiment stupéfiant, d'abord, parce que cette pièce a des dimensions gigantesques. On pourrait être dans un château, en fait, on imagine une salle de château, donc c'est énorme, avec une sorte de mezzanine, de galerie, une grande cheminée, et cette cascade, là, cette eau du moulin, dans la salle à manger, enfin, qui est très très étonnante. Enfin, personnellement, j'ai déjà vu des moulins avec de l'eau, mais je n'ai jamais vu ça dans une salle à manger. Et toujours l'omniprésence des livres, la radio. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que c'est la radio et ce qu'on appelait tourne-disque, enfin électrophone, et toute la dimension musicale, parce que si Aragon est encore connu, bien sûr, il y a l'œuvre romanesque, poétique, etc., mais ça a été quand même beaucoup grâce à Brassens, à Ferré et Ferrat, surtout.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Et donc là aussi, c'est bien sûr quelque chose qui est évocateur, parce qu'il était très reconnaissant aux musiciens d'avoir quelquefois même un peu transformé ses poèmes pour en avoir fait des chansons. Et toute cette dimension lyrique de la poésie, elle est à l'origine aussi de la poésie. Et il est dans cette veine lyrique. Hein. Donc je trouve que c'est aussi, ça nous parle là encore à la fois de l'œuvre et puis de leur personne, parce que c'est une salle à manger, ils reçoivent beaucoup, ils reçoivent des artistes, ils reçoivent des écrivains, il y a souvent beaucoup de monde autour de cette très très grande table. Là encore, des livres, des livres, des livres, beaucoup de romans étrangers. On est dans une maison, là pour le coup, d'écrivains, mais dans une maison de lecteurs aussi, on pourrait dire.
Alors on vous suit les blocs d'anneaux, nous passons à l'étage. Tout en boiserie, évidemment, cet étage. Evelyne Bloch-Danneau, je crois qu'on est dans une pièce ici que vous aimez particulièrement.
Oui, j'aime bien cette pièce. Nous sommes dans le bureau d'Elsa Triolet. D'abord, j'aime bien l'impression qu'on a dans toute cette maison d'arriver chez des amis pour un week-end à la campagne. Et là, je trouve que cette pièce, si on compare ce bureau à celui de Louis Aragon, l'ambiance est extrêmement différente. Elle est face à la fenêtre, dans la lumière, avec cette vue sur le parc, sur le bassin.
Est là, oui, à nos pieds, oui, dans la cour.
À nos pieds, donc il y a cette lumière. J'aime aussi le fait qu'on ait gardé un peu de désordre dans ces livres, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans des bibliothèques au cordeau, mais dans des bibliothèques telles que sont les bibliothèques de gens qui lisent et qui prennent les livres, les reprennent. On sent qu'ils ont été, ils ont été lus, ils ont été ouverts, ils ont été cornés, ils ont été remis. Et si je choisis aussi d'abord cette pièce, c'est également parce qu'après tout, dans ces maisons d'écrivains, on ne fait souvent la part que de l'écrivain au masculin. Là, cette maison,
si on a affaire
c'est
à un couple,
hein. Un couple d'écrivains. Ouais. Et j'ai cru comprendre que la décoration, en grande partie, elle est le fait d'Elsa Triolet. Enfin, dernière chose, toujours par rapport au bureau, à l'écriture, se rappeler qu'Elsa Triolet est la première femme à être lauréate du prix Goncourt, à recevoir le prix Goncourt en 1945. Ce qui est tout de même nous en dit long, parce qu'il a fallu 43 ans avant qu'on donne le Goncourt à une femme, et c'est elle la première.
Alors nous quittons la maison, nous voici dans le parc, et les Bloch-Danneau, eh bien, il faut rappeler que Aragon et Elsa Triolet sont enterrés ici, dans ce parc, dans ce jardin.
Oui, Elsa avait demandé à être enterrée dans le parc, et elle avait demandé aussi à avoir de la musique. Son vœu a été exaucé, donc il y avait à l'origine deux êtres, elle voulait être enterrée entre ces deux êtres. Il y a évidemment une sorte d'homophonie avec
l'être humain, les êtres, humains, et le voilà. Être, l'arbre.
Voilà, les êtres ont disparu, Mais le tombeau est toujours là et Aragon, à la mort d'Elsa, a obtenu une autorisation spéciale donc pour pouvoir, auprès, je crois, du président Pompidou, pour pouvoir
être inhumé ici, dans le parc du moulin de Saint-Arnoult. Voilà, une dalle vraiment toute simple, avec leurs deux noms. Et puis une citation, une phrase d'Elsa. « Alors nos livres croisés viendront, noir sur blanc, la main dans la main, s'opposer à ce qu'on nous arrache l'un à l'autre. »
Oui, je trouve que c'est une façon, comme les poèmes d'Aragon, d'entrer ensemble dans une forme d'éternité. Parce que, après tout, c'est comme ça qu'on se les rappelle. Quelle qu'était finalement la réalité quotidienne, si vous voulez, du couple. Et je trouve qu'une maison d'écrivain, c'est aussi ça. C'est un lieu où nous projetons aussi notre imaginaire. Et c'est pour ça qu'il y a des maisons qui nous parlent et d'autres non.
Puis cette musique qui est jouée en permanence.
Oui, jouée par Ostropovitch.
De Sarabande.
De Bach, oui.
C'était Le chemin d'écrivain d'Evelyne Bloch-Dano chez Elsa Triolet et Aragon au moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Un lieu que vous pouvez visiter chaque jour de 14h à 18h. Le livre d'Evelyne Bloch-Dano, Mes maisons d'écrivain, est publié chez Stock. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur rtl.fr. Dimanche prochain, nous irons à Bruxelles en compagnie de la jeune romancière belge Adeline Dieudonné, l'une des révélations de l'année avec son premier roman « La vraie vie ». Je vous souhaite un très bel après-midi sur RTL.